Il est 8h.
Tous nos amis qu'on a au téléphone en France sont extrêmement déprimés, ont beaucoup souffert de cette situation et continuent à en souffrir, alors que moi j'ai jamais entendu un tel témoignage en Suède.
Il n'y a jamais eu de confinement en Suède et les règles sont restées stables en un an de crise. Ce pays nous interroge, alors que l'Île-de-France risque un sérieux tournevis sanitaire. Finalement, à quoi sert un confinement ? Nous sommes à Stockholm, en direct, dans une minute. Il refuse de tirer sur son propre peuple et il risque désormais la peine de mort. Un soldat birman déserteur témoigne ce matin sur Europe 1. Et puis, une vente aux enchères de Bitcoin. Peut-être une bonne affaire pour les acheteurs, surtout pour l'État français qui va récupérer plusieurs millions d'euros. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Est-ce que ce sera l'interview vérité ? La présidente du syndicat étudiant l'UNEF va s'expliquer sur l'affaire de l'IEP de Grenoble, ainsi que sur les accusations de dérive indigéniste. Sa présidente Mélanie Luce est mon invitée. Rendez-vous 8h15.
On vous retrouve tout à l'heure. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est avec François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. À l'époque, on devait imprimer une attestation, voire la recopier à la main. À l'époque, la moindre course alimentaire apparaissait comme une aventure dans un milieu presque hostile et sans masque. Et le silence s'était fait d'un coup dans les rues et les cours de récréation. Bref, c'était une autre époque. Et surtout, le confinement avait fonctionné puisque, deux semaines plus tard, les entrées à l'hôpital baissaient en France. Pour autant, un an plus tard, la pertinence d'un confinement a de quoi être questionnée quand on regarde ce qui s'est passé ailleurs.
Bonjour Victor Delande.
Bonjour.
En direct de Stockholm pour Europe 1. La Suède, seul pays qui ne s'est jamais confiné et qui n'a pas varié dans sa stratégie.
Ouais, à seulement 2 heures de vol de Paris, c'est spectaculaire. On a l'impression de vivre hors du temps. Les bars et les restaurants sont ouverts. Seule restriction, être 4 à table. Les centres commerciaux n'ont pas fermé leurs portes, ni les salles de sport. Et ce qui frappe surtout quand vous vous baladez, c'est que très peu de Suédois portent le masque. Il est seulement recommandé dans les transports en commun, aux heures de pointe. Et cette exception européenne attire ici plein d'étrangers. J'ai croisé beaucoup de jeunes Européens et du monde entier qui n'en peuvent plus des restrictions dans leur pays. C'est le cas d'Iker, 20 ans, il vient de Bilbao en Espagne.
Les restrictions en Espagne m'ont plus touché que le virus lui-même. Ici, ce qui interpelle le plus et qui est très agréable, c'est qu'on n'est pas obligé de porter le masque. Je compte bien rester ici jusqu'à ce que les choses s'améliorent chez moi ou jusqu'à ce que je m'ennuie ici.
Alors, Victor, c'est quoi le modèle suédois exactement et surtout, est-ce qu'il marche ?
Alors toute la doctrine suédoise est basée sur la responsabilité individuelle avec quelques recommandations. La principale, c'est la distanciation physique que les gens respectent à la lettre. Il faut dire qu'ici, les concentrations de population ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Autre différence, les Suédois sont beaucoup plus disciplinés et quand on leur demande de moins se tasser dans les transports en commun, ils s'exécutent. Plus de précautions aussi dans les écoles. Dès qu'un enfant tousse un peu ou qu'il a de la fièvre, les parents doivent le garder pendant une semaine à la maison. Quant au télétravail, il est très bien appliqué. Pierre et Victoire sont français. Ces cadres vivent avec leurs 3 enfants à Stockholm depuis 4 ans. Et même s'ils ont conscience que ce modèle serait difficilement transposable en France, notamment pour des raisons culturelles, ils sont très heureux d'avoir vécu cette période en Suède.
On n'a pas du tout souffert d'une privation de liberté à aucun moment. Tous nos amis qu'on a au téléphone en France sont extrêmement déprimés, ont beaucoup souffert de cette situation et continuent à en souffrir, alors que moi, j'ai jamais entendu un tel témoignage en Suède.
Et ici, il n'y a pas de surprise, quoi. On n'attend pas l'allocution de la semaine prochaine ou de dans 2 jours pour savoir à quelle sauce on va être mangé. On sait que globalement, ils ont peut-être augmenté un peu la restriction ici ou là, mais ça ne va pas radicalement changer notre vie. Et en plus, on n'a pas le sentiment d'être infantilisé.
Victor, est-ce qu'on peut comparer les bilans entre nos deux pays ?
Oui, avec 13 000 décès pour 10 millions d'habitants, la Suède a enregistré, proportionnellement à sa population, un peu moins de morts qu'en France, où l'on a déjà vécu 2 confinements. Mais c'est 10 fois plus qu'en Norvège ou en Finlande, des pays voisins où il y a eu plus de restrictions. En fait, c'est un choix, les Suédois s'y tiennent. Et autre grosse différence notable, leur économie a été moins abîmée. Le produit intérieur brut a reculé l'année dernière, bien sûr avec la crise, mais 3 fois moins qu'en France.
Avec nous en direct de Stockholm, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Suède. Merci Victor Delande.
Beaucoup d'informations dans ce reportage, on les retrouve dès à présent sur europe1.fr pour bien comparer les situations. Chez nous, en France, c'est mercredi, c'est Conseil de défense, la routine ou presque, puisqu'hier soir, le Premier ministre a préparé les esprits à des décisions concernant l'Île-de-France, situation critique, d'autant plus que les transferts de malades vers d'autres régions sont plus difficiles que prévu, faute de patients réunissant les critères et dont les familles donnent leur accord. La suspension du vaccin AstraZeneca n'arrange rien.
Bonjour Anaïs Cordoba.
Bonjour.
Vous êtes pour Europe 1 à Londres, où la presse se déchaîne contre les craintes des Européens sur ce vaccin anglo-suédois.
Honteux, à quoi joue l'Europe, titre le Daily Express. Le chaos de la vaccination s'aggrave en Europe, estime le Daily Telegraph. La presse dans son ensemble prend la défense de ce vaccin et rappelle qu'ici, où des millions de doses ont été administrées, aucun lien avec des caillots sanguins n'a été constaté. Ces pays ont-ils perdu de vue l'objectif final, s'interroge la BBC qui conclut, au milieu d'une pandémie qui évolue très rapidement, cette approche risque de faire plus de mal que de bien. Le Daily Mail dénonce une décision imprudente. Le quotidien cite des sources à Downing Street qui suggèrent que ces suspensions visent à discréditer AstraZeneca qui n'a pas tenu ses engagements de livraison avec l'Union européenne.
Anaïs Cordoba en ligne de Londres. Et pour éviter de prendre encore du retard, il y a cette annonce du groupe pharmaceutique allemand Merck. Ce sera officiel cet après-midi, mais vous le savez déjà ce matin sur Europe 1. Un investissement en Alsace sur son site de Molsheim pour produire des sacs à vaccins, élément indispensable en ce moment et qui commence à manquer. C'est une information Europe 1. Près de 300 emplois devraient être créés dans les prochaines années dans ce secteur stratégique.
Alors si on regarde à court terme, on s'attend à des mauvaises nouvelles, mais au-delà, il y a un horizon, notamment avec ce protocole sanitaire destiné aux restaurants et remis hier par le gouvernement.
Oui, document qui était évidemment très attendu, Élise Dangean.
Oui, c'est un protocole progressif qui s'étalera sur au moins un trimestre. La première étape est un petit pas, permettre aux clients des hôtels de prendre leur petit déjeuner dans la salle de restaurant de l'établissement. La deuxième, un mois plus tard, est en revanche attendue de tous, la fameuse réouverture des bars et restaurants. Mais attention, ce sera une réouverture partielle. La jauge sera fixée à 50% des capacités normales à l'intérieur des établissements, mais aussi en terrasse dans le cas des bars. Troisième et dernière étape, la levée des jauge et le retour à une quasi-liberté, toujours avec un mètre de distance entre les tables. Une lueur d'espoir pour Didier Chenet, président du groupement national des indépendants.
Nous avons enfin de la visibilité. Bien sûr, on n'a pas de date de réouverture, mais en tous les cas, aujourd'hui, on a enfin un plan de réouverture qui nous permet de pouvoir enfin s'accrocher à quelque chose et enfin se dire ça y est, on voit le bout du tunnel.
Il faut désormais attendre le feu vert du gouvernement qui dépendra de deux facteurs, le nombre de cas positifs au Covid-19 en France et le nombre de vaccinés. Les seuils n'ont pas encore été fixés.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Une vraie révolution sociale chez Uber, uniquement au Royaume-Uni pour l'instant, mais ces chauffeurs, qui étaient des travailleurs indépendants, 70 000 au total, vont être salariés, ce qui leur donnera le salaire minimum et des congés payés. C'est une première dans le monde et cela fait suite à une décision de la Cour suprême locale.
Le procès en France de l'affaire Big Malion, du nom de cette société qui avait organisé les meetings de Nicolas Sarkozy en 2012.
Oui, scandale de fausses factures pour camoufler les frais de campagne faramineux, 43 millions d'euros au lieu des 22 millions autorisés. Les débats devaient commencer aujourd'hui mais seront certainement repoussés de plusieurs semaines car des avocats sont malades.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant, ce témoignage exceptionnel, un déserteur de l'armée birmane qui refuse de tirer sur son propre peuple.
Et puis une vente aux enchères de Bitcoin qui va rapporter des millions à l'État français.
A tout de suite, il est 8h09.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h10, la suite du journal, François Geffrier.
Avec d'abord cette information, aux États-Unis, trois fusillades hier ont fait 8 morts dans des salons de massage d'Atlanta et d'une ville voisine. Un suspect de 21 ans est en garde à vue.
En Birmanie, des centaines de personnes sont portées disparues selon l'ONU.
Oui, sans parler des 180 civils, pour la plupart des manifestants tués depuis le coup d'État du 1er février. Situation qui a conduit un soldat a déserté, un capitaine de 30 ans que Jean-Sébastien Soldaini a réussi à contacter pour Europe 1. Il nous le présente.
Ong Myat vit reclus, caché chez un ami à quelques mètres de son régiment. Il dit avoir pris un mois de réflexion pour déserter, 6 jours de préparation. Décision prise un soir après avoir participé à une journée de répression.
J'ai vu aux infos que des manifestants étaient tués. J'ai su qu'un jour, on pourrait me donner l'ordre de tirer à balles réelles. Je refuse de le faire face à des manifestants pacifiques. Je suis parti avant qu'on m'en donne l'ordre.
Depuis, il a créé un profil Facebook où il pose en uniforme en levant 3 doigts vers le ciel, signe de ralliement des protestataires birmans. Avec ça, il sait que son sort est scellé.
Ils finiront par me trouver de toute façon. Peut-être d'ici 2 semaines. Alors, tout ce que je veux, c'est faire savoir ce qu'il se passe ici. Ensuite, j'informerai mes supérieurs pour qu'ils viennent m'arrêter.
Je risque la peine de mort, mais je le mérite et je ne veux pas fuir. Je suis à Rangoon, on ne peut aller nulle part.
Nulle part, comme piégé dans sa ville, quant à la peur des jours à venir, il la balaie. Ce n'est pas du courage, dit-il, uniquement du désespoir.
Récit de Jean-Sébastien Soldaini.
Les maisons de vente aux enchères sont des cavernes d'Ali Baba, hein, où l'on trouve des bibelots, des meubles, des voitures parfois. Mais aujourd'hui, sur le site Inter-Enchères, la star de la vente sera invisible.
Mais on va sans doute se l'arracher, car ce sont des bitcoins confisqués lors d'une procédure judiciaire. Clément Le Saffre, c'est une première.
Oui, parce que d'habitude, ce sont des vêtements, des bijoux, des voitures volées que l'on trouve dans ce type d'enchères. Cette fois, la grâce que l'agence qui gère les biens confisqués par l'État met en vente, 611 bitcoins saisis dans les poches de criminels. Au cours actuel de 46 000 euros le bitcoin, le butin vaut plus de 28 millions d'euros. La vente aux enchères se déroule en deux temps. D'abord, des petits lots, par exemple une moitié de bitcoin, puis des gros lots pour ceux qui ont les moyens de s'acheter 10 bitcoins d'un coup. Un découpage décidé par Ghislaine Capanji, la commissaire-priseur.
J'ai voulu que cette vente puisse intéresser un peu tout le monde, du particulier qui souhaite faire un investissement dans une partie de Bitcoin ou un Bitcoin ou deux Bitcoins, jusqu'aux investisseurs qui sont bien évidemment plus intéressés par des lots plus importants.
Pour les premiers lots, le prix de départ a été fixé à 50% du cours du Bitcoin, puis les mises à prix évolueront tout au long de la journée en fonction des fluctuations du cours et de l'intérêt des enchérisseurs. On connaîtra donc ce soir le montant du pactole touché par l'État. Et cette première vente aux enchères en appelle d'autres à l'avenir, la grâce que Satan a récupéré de plus en plus de Bitcoin parmi les biens des criminels.
Même un demi-Bitcoin, c'est déjà le prix d'une voiture, 23 000 euros.
C'est noté. On va acheter nos voitures en Bitcoin désormais. Merci François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h14.
Europe 1, Mathieu Béliard.